Le livre des proverbes. Pourquoi des proverbes dans la Bible? Avant de regarder le sage et l'insensé, on va essayer de répondre un peu à cette question. Pourquoi? En fait, dans toutes les cultures, il existe des proverbes. Dans toutes les cultures. Je vais vous faire un petit test. J'ai quelques proverbes. Je vais vous donner le début des proverbes français. Vous allez me dire si vous connaissez la suite. Ça m'étonnerait que vous ne les connaissiez pas. Qui vole un œuf? Merci. Les paroles s'envolent. Donner, c'est donner. Laurine les connaît bien. Les bons comptes. La vengeance est un plat. C'est marrant, vous les connaissez. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mieux vaut prévenir. Bien mal acquis. Il ne faut pas jeter le bébé. Voilà. À quoi ça sert les proverbes? Ce sont des choses que l'on connaît et qui, en quelque sorte, qu'on peut dire, dans notre cerveau quelque part, ces mots sont là et nous guident un petit peu dans les choix qu'on fait dans la vie. Moi, je voulais faire ce test ce matin et j'étais sûr que vous allez les connaître en fait. C'est marrant, hein. Vraiment, ça fait partie de notre culture. Le livre des proverbes, donc les proverbes plutôt, c'est un genre littéraire bien connu. Deux petites autres anecdotes que je trouve intéressantes. Donc je connais quelqu'un, un Algérien, qui après a travaillé avec les GBU, et puis un chrétien malgache lui avait donné une fois une Bible. Il était musulman, ça ne l'intéressait pas trop, mais à un certain moment de sa vie, il était devant un questionnement, donc il ne savait pas trop ce qu'il pensait, donc il a retrouvé cette Bible qu'il avait rangée en haut de sa bibliothèque, et commence à le lire. Il commence à la regarder, il dit, mais, Genèse, je ne sais pas ce que ça veut dire, Exode, Lévitique, je ne comprends pas ce que ça veut dire, puis il tombe sur Proverbe, il dit, ah, je sais ce que c'est qu'un proverbe. Donc il a commencé à lire le livre des Proverbes. Et il a dit, ça l'a choqué. Parce qu'il a dit, on m'avait toujours dit que la Bible c'était n'importe quoi. J'ai trouvé que ce livre était très sage. Donc pour lui, c'était l'entrée en matière, le début de sa conversion. Et une deuxième anecdote, là, ça revient, ça vient aussi de notre pays, ça vient du Laos. Où un missionnaire qui a travaillé là-bas m'a dit que quand ils font des distributions des Écritures au Laos, ils mettaient toujours souvent ensemble un évangile et le livre des Proverbes. Parce que les Laotiens aimaient tellement les Proverbes que, en fait, ça leur montrait qu'il y avait beaucoup de sagesse dans la Bible et qui faisait qu'ils lisaient aussi l'évangile. Donc ça fait partie de la sagesse universelle. Et ici, nous avons une collection de proverbes avec comme grande valeur ajoutée, c'est que ces proverbes tiennent compte aussi de l'existence de Dieu. C'est ça les proverbes. Alors, c'est quoi les proverbes? D'abord, ce sont des généralités. C'est des généralités basées sur l'observation de la vie, des probabilités, des lignes directrices. Ce ne sont pas, et je voudrais bien souligner ceci, il ne s'agit pas de promesses. Parce que c'est la vie telle qu'elle est. Bon, je donne un petit exemple que l'on donne souvent dans ce sens, c'est Proverbe 22 et le verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est une généralité. On va dire que très souvent, ça se passe comme ça. Mais si on dit que c'est une promesse, que dire d'un homme de Dieu, d'un couple chrétien spirituel dont un enfant se détourne de Dieu. On ne peut pas dire, ah bah, il y a un problème. Non, les proverbes nous disent ce qu'il faut faire, il faut éduquer un enfant. Et il y a des chances à ce moment-là qui suivent la voie. Mais ce n'est pas une promesse. Je crois qu'il faut vraiment souligner ça. Les proverbes, il ne s'agit pas de promesses. Il y a des promesses dans la Bible, bien sûr. Donc, ce sont des généralités. Ensuite, on peut dire que c'est la loi de Dieu, donc les commandements de Dieu, ces commandements qui définissent les normes, mais c'est cette loi de Dieu appliquée à des situations réelles, comme on va faire dans la vie. Comme j'ai dit, basé sur l'observation, qu'est-ce qui est sage, quel est un comportement sage dans différents contextes réels. Donc, j'ai pas noté le proverbe, mais de mémoire, il dit quelque chose comme ceci. Ne réveillez pas votre voisin très tôt le matin avec des bénédictions. Bon, il n'y a absolument rien dans les 10 commandements qui parle de cela. Mais seulement, c'est vrai que même si on peut dire « je bénis Dieu », mais peut-être qu'il ne veut pas être réveillé. Donc c'est la sagesse de vie, en quelque sorte, de ne pas faire cela. Ce sont donc la mise en œuvre des normes éthiques, la loi de Dieu, dans les différentes situations rencontrées au quotidien. Donc j'ai fait une petite liste des situations possibles, envisageables, où les proverbes proposent des réactions appropriées. Donc dans les proverbes, il parle du couple, on parle de la famille, on parle de la relation, les relations entre générations, on parle des relations avec les autorités, on parle du travail, on parle des relations commerciales, on parle de la gestion de ses biens, on parle de la parole, on parle de l'alimentation, enfin, il y a beaucoup de thèmes différents. Qui sont comme des applications de normes éthiques, mais sachant que nous sommes dans un monde déchu, où parfois c'est difficile, et de savoir mais comment on va être sage dans ce contexte. Et à partir du chapitre 10, donc jusqu'à la fin, tous ces proverbes sont donnés pêle-mêle. Il y a la plupart du temps dans la Bible, il faut chercher quel est le contexte, il faut voir, il y a tout un développement, mais à partir du chapitre 10 dans les Proverbes, tout est livré pêle-mêle. Il y a pas d'ordre. On va sauter, comme on dit, de coq à l'âne, on va sauter de la parole à l'éducation des enfants, à la gestion de ses biens, mais il n'y a pas d'ordre. C'est livré tel quel. Certainement, peut-être dans la sagesse de Dieu, pour que l'on comprenne bien que finalement, c'est ça la vie. La vie n'est pas toujours très linéaire, on va dire. C'est comme ça. Donc, les proverbes, on peut dire, j'aime bien cette définition, c'est l'art de vivre selon Dieu. C'est l'art de vivre selon Dieu. Et pour y arriver, les proverbes proposent deux choses. De lire la parole de Dieu et de réfléchir, et d'observer le monde et de réfléchir, et de mettre les deux ensemble, quelque part. Alors voilà, ça c'est un petit peu toute l'introduction. Donc je résume, il ne s'agit pas de promesses, mais c'est l'observation, et c'est comment vivre avec Dieu dans toutes les différentes situations concrètes et réelles de la vie. Donc l'art de vivre selon Dieu. Alors, la sagesse, dans ces textes, la sagesse est offerte à tous, mais souvent rejetée. Alors, on va regarder quelques textes sur la sagesse. D'abord, tout le début, où la sagesse est personnifiée, ça veut dire la sagesse parle. Donc, je vais lire ces versets de 20 à 27. La sagesse crie dans les rues. Elle part tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits brillants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimeriez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides ou les insensés. Donc, dans la première version seconde, c'est marqué insensé. Donc, la version seconde 21 a tendance à dire stupide. Donc, je reviens au verset 22. Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main, que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Donc, comme il a dit, la sagesse est offerte à tous, mais souvent rejetée. J'ai l'impression parfois que dans la vie, quand je regarde les gens autour de moi, il y a autant de malheurs, de dégâts causés par le manque de sagesse que par carrément la désobéissance à des commandements de Dieu. Hein, parce que c'est la façon de le faire qui fait ça. Combien de fois le problème de relationnel dans un voisinage, ou au travail, ou ailleurs, combien de fois on prend des décisions à la va-vite, sans vraiment bien réfléchir. Bon, ça cause beaucoup de malheur dans la vie. Un autre texte qui dit un peu la même chose, c'est Proverbe 3, 1 à 10. Je vais encore le lire dans tous ces dix versets. Et ici, par exemple, on parle aussi du bon sens. C'était une question que quelqu'un m'a posée, enfin, une remarque que quelqu'un ici au culte la semaine dernière, en disant que est-ce qu'on parle de la sagesse aujourd'hui, est-ce qu'on ne dit pas plutôt le bon sens? Et en lisant ceci, j'ai trouvé que parfois dans la version seconde 21, on parlait du bon sens. Je ne sais pas si c'est dans ce texte, je pense, mais sinon c'est ailleurs. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Quand la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les, alors que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Comme je dis, ce ne sont pas des promesses. J'aimerais bien que mes cuves débordent de vin nouveau. Mais bon. Mais en même temps, avec ces généralités, je crois qu'il y a du bon sens, comme c'est marqué. Est-ce que le fait de suivre la sagesse de Dieu va prolonger la durée de nos jours? Je pense en partie. Je pense vraiment en partie. Parce que si quelqu'un, par exemple, s'adonne à la boisson, il risque de voir ses jours raccourcis par des maladies, par exemple, ou plein d'autres choses où on manque de sagesse. Mais ce n'est pas une promesse. parce qu'il y a aussi des chrétiens qui peuvent mourir jeunes ou subir un accident, etc. Mais je pense que ce sont des choses que l'on observe. Est-ce qu'on connaîtra ces proverbes? Cette sagesse va nous augmenter la paix, selon le verset 2. Moi, je pense. Je pense que les chrétiens peuvent vraiment vivre dans la paix, parce qu'ils savent à qui se confier quand ça ne va pas. Il sait que tout n'est pas le résultat de ses propres efforts, mais peut se confier en Dieu. Ça lui donne la paix. Donc c'est pour cela que, avant de passer à tous ces proverbes, à partir surtout du chapitre 10, le verset 5 dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Donc ça veut dire, selon le titre du livre que j'ai écrit, Disciple 24-24, donc dans toutes tes voies, à tout moment. C'est pas simplement, nous on n'est pas chrétien qu'au culte, hein, c'est partout et tout le temps. Donc voilà, cette sagesse s'offre à tous, mais malheureusement, elle n'est pas toujours acceptée. Alors, il y a quand même, bon, on va lire aussi un autre texte, Proverbe 9. Encore une fois, on personnifie la sagesse et on dit que la sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes, elle a abattu son bétail, mélangé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville: Qui manque d'expérience qu'il entre ici? Donc, là, toute l'image, c'est-à-dire qu'on rentre dans la maison, la sagesse. Et dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens: Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le chapitre 1 et le chapitre 9, il y avait les mêmes mots, ce qui ferait abandonner la naïveté. La sagesse n'est pas la naïveté. La sagesse, c'est de dire, dans un monde où il y a le péché et le mal, dans ce monde-là, sans naïveté, on tient compte du mal, mais on tient compte aussi de la présence de Dieu avec nous. Donc ça, c'est éviter la naïveté. Et je crois qu'il faut faire attention à cela. Parfois, j'ai remarqué avec Marie que certains chrétiens peuvent être naïfs. Ils tiennent pas compte de la méchanceté du monde, ils se laissent avoir. Parce que eux, ils cherchent à plaire au Seigneur, à être sages, et ils vont penser que tout le monde fait de même. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ose pas parler des garagistes ici. Par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Par contre, j'ai dit que les proverbes, ce n'est pas une sagesse, mais il y a une promesse sur la sagesse qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que je vous invite à trouver dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1 et le verset 5. Là, c'est une promesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Donc, il faut demander à Dieu la sagesse. Je pense qu'on pense tous à Salomon, hein, avec cette histoire, qui avait demandé la sagesse. Voilà. Alors, on a vu ce que c'est que les proverbes. On a vu que la sagesse s'offre à nous. Maintenant, dans quel contexte? Et je propose que le contexte de la sagesse, c'est que la sagesse se vit dans une relation avec Dieu. Et il y a surtout deux choses qui sont soulignée dans les proverbes. D'abord, c'est dans le contexte de la crainte de Dieu. C'est que ça fait plaisir à certains de parler de la crainte de Dieu. Dans Proverbes chapitre 1, verset 7, on a la connaissance, ou la sagesse selon la traduction, commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc j'ai pris cette même traduction, ce même verset dans quatre traductions. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, second classique. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, le semeur. Bible en français courant, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse, le commencement. Et le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse, parole de vie. Donc, c'est vraiment, j'ai pris ces traductions pour que l'on ne comprenne pas la crainte comme la crainte où on a peur de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a traduit aussi dans le semeur révéré. On a, dans la Bible en français courant, reconnaître l'autorité du Seigneur, dans Parole de vie, le respect du Seigneur. En tout cas, c'est comprendre que Dieu sait tout sur moi et sur tout. Et ça peut nous faire trembler un petit peu. C'est ce le psaume 139, hein, Dieu sait quand je me lève, quand je me couche, il connaît mes pensées, il connaît même mes paroles avant de les prononcer. Donc Dieu, c'est Dieu. Donc là, on a raison de craindre, de respecter ou de révérer quand on sait que Dieu est omniscient, donc c'est-à-dire il sait tout. Je vais lire ces quelques versets, donc, soit vous les trouvez ou vous les écoutez, qui revient sur ce même thème. 8-13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Donc, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. 9-10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. 15:33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et puis 23:17. Si je cite tous ces versets, c'est pour montrer que c'est vraiment un thème qui traverse les proverbes. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Donc, craindre l'Éternel. Et il y en a d'autres, hein, donc j'avais fait toute une liste, je n'ai barré certains. Mais il y a un deuxième côté, c'est la confiance en l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure au chapitre 3. Hein. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur. Et donc il y a d'autres versets qui en parlent aussi. Le chapitre 16, 20. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et puis le chapitre 22, verset 19. Pour que ta confiance soit placée en l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Donc si on reste uniquement avec la crainte, ce n'est pas la seule chose à retenir dans la relation avec Dieu. Et aussi la confiance. Il faut les deux. Parce que si on a la crainte sans la confiance, on va vivre aux yeux de Dieu en faisant peut-être, on va dire, on ne serait peut-être pas heureux, on serait tout le temps dans la crainte, dans la mauvaise crainte. Si on n'a pas, si on a la confiance sans la crainte, on peut dire, mais Dieu sait tout, donc il me passe l'éponge facilement. Il faut les deux. Il faut les deux, la crainte et la confiance. Donc, de toute façon, la sagesse se vit dans la relation, ce qui fait que, avant de passer à l'insensé, ce verset de Proverbe 4, verset 3, 23, pardon, qui est, je trouve, une très beau verset dans les Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Donc, garde d'abord la sagesse commence à l'intérieur. Et après, ça va se manifester dans la vie. Et ça m'a fait penser aussi aux paroles de Jésus dans Marc 7, hein, où il disait que finalement, ce n'est pas les gestes extérieurs qui vont nous souiller, mais ce qui vient du cœur, hein. Il a dit, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre pur, impur? Mais il dit, en effet, ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est de l'intérieur, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc le chrétien ne va pas rester simplement à l'extérieur, en quelque sorte, hein. Donc c'est tout le piège du légalisme, où on extérieurement, quand la personne nous regarde, on fait rien de mal. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Est-ce que ce qui passe dans le cœur qui va finalement déborder et nous amener à faire des choses mauvaises dans la vie. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, j'arrive à l'insensé, qui était annoncé un peu comme le sujet, mais il fallait quand même introduire. L'insensé, ou stupide. Donc, selon le second 21. Et on parle aussi de fou et de folie. C'est pas, quand on parle de la folie dans les proverbes, ce n'est pas la déficience mentale, hein, c'est pas, il est fou. C'est la folie qui est l'indifférence à l'égard de la sagesse, ou même le refus de la sagesse pour mener sa vie. Et j'ai compté dans les proverbes 47 fois le mot insensé et 22 fois le mot la folie. Alors, pour terminer ce premier survol des proverbes, on va regarder quatre conséquences, enfin quatre choses en ce qui concerne l'insensé, en se disant, voilà, c'est le négatif en quelque sorte qui nous pousse vers le positif. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les conséquences, en fait, de cette folie? La première chose, l'insensé fait souffrir ses proches, sa famille. Je ne vais pas vous donner le temps de chercher toutes les références, je les lis. Hein, donc, Proverbe 10, 1. Un fils sage fait la joie d'un père. Mais un fils insensé, le chagrin de sa mère. Il faut comprendre, dans le parallélisme de la poésie en hébreu, ça ne veut pas dire que l'insensé ne cause que le chagrin de sa mère, il cause le chagrin de son père et de sa mère. Et aussi, le fils sage fait la joie d'un père et de sa mère. C'est simplement la façon de s'exprimer, parce que souvent dans les proverbes, comme dans les psaumes, on dit la même chose deux fois, mais en changeant un petit peu. Donc, il faut comprendre le tout. Donc, voilà. Un fils sage fait la joie de ses parents, on va dire, mais un fils stupide, le chagrin de ses parents. Proverbe 15. Un fils sage fait la joie de son père, mais un homme insensé méprise sa mère. 17-21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, mais le père d'un fou ne pourra pas se réjouir. 17-25. Un fils insensé est une source de chagrin pour son père et l'amertume de celle qu'il a mis au monde. Et même Proverbe 19-13, un fils insensé est une calamité pour son père. Donc les conséquences, et on le sait, combien de parents peuvent souffrir de ce que font leurs enfants. Donc la sagesse, c'est aussi d'essayer d'honorer ses parents et donc et à son tour d'élever des enfants qui honorent les parents, etc. Parce que finalement, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien à tous. Deuxième chose, mais on aura toute une prédication sur ce thème, je pense que c'est la semaine prochaine. Voilà. Sur la langue, la maîtrise de sa langue. Aïe, aïe, aïe. Jacques, dans son épître dans le Nouveau Testament, dit qui peut maîtriser sa langue. Et je pense que nous tous, on peut penser à des moments on n'a pas maîtrisé sa langue. Et une fois qu'on a dit quelque chose, c'est resté. Et on espère que la personne à qui on l'a dit l'a oublié. C'est pas sûr. Mais voilà, ça, si on peut maîtriser, c'est mieux. C'est un peu comme on m'a donné l'image une fois les paroles qu'on ne maîtrise pas, c'est comme quelqu'un qui aurait un sac de plumes qu'il ouvre et puis les plumes s'envolent et puis on partit partout. Voilà. Alors, l'insensé, on revient à cela. Proverbe 10, 14. Les sages retiennent la connaissance, quand l'insensé parle, la ruine est proche. 10, verset 8. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. 18, 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. On va revenir à ça. Les conséquences de ces paroles provoquent les coups. Et 18.7, la bouche de l'insensé provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Non seulement on fait du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même. Donc, un des versets qu'on vient de dire, provoquer les coups, on peut dire aussi que la folie, l'insensé provoque des querelles et des dégâts. Proverbe 12, 16, l'insensé manifeste immédiatement sa colère. Et comment il le manifeste? C'est par les paroles, hein, la plupart du temps. Proverbe 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Ou, notre traduction, l'insensé se livre à l'emportement. Donc, le sage essaie d'éviter les disputes. Même des disputes sur des mots. Proverbe 29, 11. L'homme stupide ou l'insensé affiche toujours sa passion, mais le sage y met un frein. Voilà. Parce que son comportement peut provoquer des querelles et des dégâts, et c'est difficile d'y mettre fin. La quatrième chose qui qualifie, qui décrit l'insensé, c'est il est arrogant et orgueilleux. Proverbe 12, 15. La voie qu'emprunte l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc ça veut dire qu'il faut écouter parfois les conseils des autres, parce que l'insensé dit, moi je sais. Moi, je sais. Proverbe 14, 16. Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'insensé se montre arrogant et plein d'assurance. Moi, je sais. Proverbe 18, 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Il y a des gens parfois extrêmement bavards, où c'est moi, je, moi, je. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Alors, je termine avec une conclusion. Parce que je voulais pas rester avec le négatif, même si c'est bien de comprendre. Alors, il y a un verset, ou deux versets d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, qui vont résumer tout le contraire de ce qu'on vient de voir pour l'insensé. C'est dans Jacques, encore dans Jacques. Certains pensent d'ailleurs que l'épître de Jacques, on peut presque le classer dans les livres de sagesse, comme les livres de l'Ancien Testament. Alors, c'est quel verset? Jacques 3, 17 à 18. La sagesse qui vient d'en haut, donc de Dieu, est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc le fruit de la justice. On a parlé de la justice ce matin. Toujours émerveillé combien de fois une présidence a un lien avec la prédication. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc, vous voyez, dans ces deux versets-là, on a tout le contraire de ce que l'on a vu en ce qui concerne les insensés.